Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Les grandes voix jusqu'à 19h, comme chaque soir. Ils sont avec moi dans ce studio. Bonsoir Charles Villeneuve.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, Gérard Carrérou également. Bonsoir à vous et bienvenue
bonsoir.
Gérard. Mickaël Darmon est également avec nous, éditorialiste
bonsoir.
Europe 1. Bonsoir Mickaël. Et vous aussi, on vous attend au 39-21. Vous avez votre mot à dire. On vous attend nombreux. Mickaël, vous avez suivi le dossier toute la matinée et vous avez été le premier à sortir l'information ce matin. Deux entrants dans ce gouvernement, Jean-Paul Delevoye, Jean-Baptiste Djebbari. Vous le saviez, c'est arrivé en milieu de matinée. Pas un remaniement, un réajustement.
Oui, selon le terme d'ailleurs posé par le président de la République lui-même en début de saison, enfin il y a quelques jours, lors de sa rentrée, en disant que s'il fallait faire des réaménagements pour aider des ministres qui n'y arrivent pas, c'était ses propos, eh bien on le fera et ce sera comme d'habitude. Alors c'est vrai que Jean-Paul Delevoye a été annoncé depuis longtemps. De ce point de vue-là, on sait que son entrée au gouvernement n'était pas un mystère. Ce qui est intéressant, c'est d'abord la manière dont il entre, c'est-à-dire qu'il reste finalement au commissaire, il ne devient pas ministre, on pourra en parler effectivement sur la signification, et puis c'est le timing, comme on dit, on est à la veille d'un séminaire gouvernemental où là on va avoir une grande séance de DRH, de la rentrée et la fameuse inauguration de l'acte 2 du gouvernement. Donc de ce point de vue-là, celui qui est l'homme de la concertation, spécialiste des négociations, qui a une capacité à pouvoir donc connaître les rouages et sentir les rouages de la société, va servir à déminer cette réforme extrêmement sensible. Et quant à Djebbari, eh bien, Jean-Baptiste Djebbari, c'est un signal envoyé à la jeune garde.
C'est ça, c'est Jean-Baptiste Djebbari, un fidèle,
37 ans,
la nouvelle garde,
député de la Vienne,
très présent dans les médias,
et spécialiste des questions de transport, qu'on a beaucoup entendu sur la réforme de la SNCF, qui a beaucoup défendu le gouvernement pendant la crise des Gilets jaunes, issu d'une région enclavée. Anecdote, mais c'est intéressant, il est lui-même pilote de ligne, donc on peut penser qu'effectivement il est peut-être sensibilisé aux commandes de maintenant de ce nouveau portefeuille. Mais c'est également un autre signal, il y avait eu quand même des grognements dans la majorité. Lorsque, au dernier remaniement, c'était deux conseillers présidentiels qui étaient passés au gouvernement et non pas des élus de la jeune garde. Donc c'est aussi une manière de leur montrer que
le
président ne les oublie pas.
Il les a repérés, il les a vus et il les promeut. Donc Gérard Carrérou, quelle lecture on fait? Incarner l'acte 2 du quinquennat, on continue à mener les réformes du pays, on change de méthode, on fait rentrer effectivement Jean-Paul Devoye, Jean-Baptiste Djebbari, la co-construction cette fois, c'est comme ça qu'on peut appeler ça?
Je me pose une question quand même sur M. Delevoye. D'abord, c'est un homme de qualité, je le dis tout de suite, ça a été un bon ministre sous la présidence de Jacques Chirac, il avait bien travaillé dans la première partie du mandat de M. Macron, en travaillant pendant près de 10 mois dans une concertation avec les syndicats. Tout le monde disait, il travaille bien, on peut discuter avec lui, etc. Et c'est lui qui avait sorti cette notion d'âge pivot, 64 ans pour les retraites. Or, il se trouve qu'il s'est fait bazouquer sur France 2 lors de l'interview avec Madame Lapix.
En sortie du G7 à Biarritz.
Lors de l'interview où le président a dit, moi je ne suis pas pour le changement de l'âge. Je suis plutôt pour la durée de cotisation. Donc je me dis que ce brave monsieur Delevoye, est-ce qu'il va être là pour détricoter ce qu'il avait préparé dans sa concertation et dans son rapport? On peut penser qu'il va être obligé de manger un peu son chapeau.
On va voir, Charles Villeneuve, quelle lecture vous faites.
C'est même certain. On ne va pas voir.
C'est-à-dire qu'en fait, on le met là pour finalement...
Non, mais on ne va pas voir.
Pousser à qui?
Il a travaillé depuis 2 ans sur une hypothèse qui a été retoquée par le président de la République. Au contraire, il est l'illustration même du changement de ton, d'attitude et de fond du chef de l'État. Le chef de l'État, il est en train de se chiraciser complètement. Il est en train de revenir exactement avec les méthodes de l'ancien monde. C'est-à-dire, on a avancé, on a déchiré le tissu social avec l'affaire des Gilets jaunes, et puis on a trouvé deux anesthésiques, premièrement de l'argent, et puis deuxièmement, le deuxième anesthésique, c'est évidemment de changer de pied, de revenir, comme a fait d'ailleurs Mitterrand, comme a fait à partir de 84, comme a fait Chirac, et comme a fait Hollande. Pas Sarkozy. Sa tactique était différente. Comme c'est un avocat, il pratiquait l'art du deal. dès le départ.
Donc
c'est tout à fait différent. Et donc c'est ça pour moi qui est très important et très intéressant.
C'est là que vous observez. Donc être moins clivant, plus à l'écoute, tout en gardant le cap. On a changé de stratégie. On entre de plein pied dans cet acte 2. On s'en parle.
On a changé
dans
même de discours.
On a changé de discours.
Le président de la République n'est plus Jupiter.
C'est la brigade des démineurs qui est à l'œuvre maintenant. Déminer tous les dossiers.
À la différence près que Jacques Chirac, quand il a changé de pied, il a tout arrêté. Là, il y a un changement de pied, mais pour continuer.
On se le dit dans un instant, le changement de pied.
On le verra sur tous les sujets.
On en parle, restez avec nous. Et appelez-nous au 3921.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy, ce soir Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Venez les interpeller au 3921, 50 centimes la minute.
Et Charles Villeneuve le disait il y a un instant, finalement, on est dans un acte 2 qui démarre avec un exécutif qui arrondit les angles, qui calme le jeu. Et Georges, Charles, vous a entendu à Angers, peut-être, ou en tout cas, il partage votre point de vue. Bonsoir Georges, merci d'être
Bonsoir.
Avec nous en direct sur Europe 1. Macron arrondit les angles, Macron joue la câlinothérapie, Macron devient écolo, c'est la lecture que vous faites ?
Voilà. Alors moi, je pense en fait que dans les appréciations que j'ai pu avoir sur le discours concernant l'Amazonie, je pense que notre président prépare déjà les élections de 2022. En d'autres termes, si vous voulez, lors des élections européennes, vous avez eu un score des Verts à 14 ou 15%, et M. Macron va essayer de phagocyter, si vous voulez, l'électorat de Verts en se présentant comme le chantre de l'écologie. Voilà, c'est une appréciation que j'ai maintenant à vous, les grandes voix, de pouvoir en
Alors,
discuter
Gérard
et de me
Carrérou.
Donner votre avis.
Et vous avez raison, Georges, merci beaucoup de nous avoir rappelé. Vous allez écouter Georges Carrérou. Avant 2022, il y a les municipales, demain, on pourra se dire.
En l'occurrence, Gérard est d'accord avec Georges. je pense effectivement, il y a deux choses dans le Macron de maintenant, de la deuxième partie du quinquennat. Il y a ce qu'on pourrait appeler le verdissage, pas le vernissage, mais le verdissage. Pour occuper la position
il
des
peint,
Verts
il
et
a
récupérer...
Peint. Il a peint du sol au plafond, si tu
Absolument,
veux, en vert.
On a repeint en vert. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un recul stratégique généralisé. On a parlé, il y a cinq minutes, des retraites, mais on peut faire la même analyse pour d'autres dossiers. Les urgences, par exemple, c'est un dossier, ça monte, les urgences. Il y a plus de 200, il y a, je crois, à peu près la moitié des services d'urgence de France qui sont aujourd'hui... En grève larvée, ils s'occupent des gens, mais ils sont en grève.
C'est un mouvement qui s'étend.
Le mouvement s'étend, il faut déminer.
Ça fait six mois que ça dure.
Et on a dit, attention, on a mis en garde le président de la République et le Premier ministre, on a dit, attention, les gens qui voient sur le terrain leur ont dit, attention, ça va, c'est très mauvais. Parce qu'en plus, ce sont des professions populaires. Les gens aiment bien les infirmières, les gens aiment bien la médecine. Et puis les gens ont tous la trouille d'aller à l'hôpital et d'être mal soignés.
A priori, là-dessus, on est tous égaux. Exactement, Gérard et Mickaël, on est là dans la câlinothérapie. On a vu Agnès Buzyn, elle est sur le terrain, elle connaît parfaitement Agnès Buzyn, elle est ministre de la Santé, mais elle a été professionnelle. Elle a dévoilé aujourd'hui des mesures au CHU de Poitiers, ses premières mesures pour désamorcer le mouvement de grève. Globalement, c'est insuffisant, c'est ce qui est dit.
Avant de la câlinothérapie, on en parle beaucoup, on dit vraiment c'est ça, mais je crois qu'en réalité c'est un autre sentiment qui les guide. L'exécutif est un petit peu dans une situation des grands brûlés, c'est-à-dire que dès qu'une allumette se craque, il sursaute. Et en fait, il y a une volonté d'être dans l'hypervigilance sur tous les sujets pour ne pas faire repartir la crise des Gilets jaunes, pour ne pas faire reparler la colère. C'est l'obsession de cet exécutif à la rentrée que ça ne reparte pas. Or, et là vous l'avez dit, le problème c'est qu'avec les urgences, on est au cœur de la problématique du désert médical. C'était au cœur de toutes les revendications sur tous les ronds-points. Parce qu'il n'y avait pas que les actes parisiens. Il y avait les ronds-points qui étaient des bastions, des sortes de zones à gilets sur tout l'ensemble du territoire. Et les Français qui venaient là disaient « Mais la première des revendications, c'était « On veut sortir du désert médical ». La première revendication qui sort du grand débat, c'est le désert médical. Et effectivement, on voit bien que ça a été peut-être sous-traité. Et là... c'est en train de repartir et c'est peut-être
point,
la vraie zone de danger.
Exactement,
dans
un
les
point
mesures,
hautement inflammable.
Dans les mesures que propose, il y a un certain nombre de mesures qu'elle a proposées aujourd'hui, c'est passé un peu inaperçu les mesures de Mme Buzyn, parce qu'il y a eu évidemment le Grenelle pour les femmes battues,
les violences conjugales,
etc. Donc on a un petit peu sous-traité, mais elle propose entre autres choses, elle propose non pas de faire des lits supplémentaires, ce qui est demandé par les gens qui sont actuellement en grève. Elle propose éventuellement des méthodes comme la téléconférence pour pouvoir soigner. Tout ça, ce sont des choses intéressantes à explorer, mais ça ne répond pas...
Mais c'est quand ça marche bien que ça, c'est un plus.
Exactement. Ça ne répond pas au fond des choses.
Non, mais, dans son ascension fulgurante et son départ, sa volonté de réformer la France au pas de charge, il est allé trop loin et il n'a rien écouté, ou presque. Arrivent les gilets jaunes. En effet, la désertification médicale, etc., faisait partie des revendications. Mais là, aujourd'hui, si vous voulez, en réalité, il a la tête, évidemment, à ses réformes, à petits pas, parce que pour l'instant, on soigne pas en réalité le symptôme.
Non, pour l'instant, d'ailleurs, il parle de mesurettes,
ça en est, d'ailleurs. Et puis Agnès Buzyn, qui connaît parfaitement son métier, qui est un médecin, etc., sait très bien, de toute façon, qu'il faut aller beaucoup plus loin, mais on a-t-elle les moyens? Simplement, qu'est-ce qu'il a? Il a la tête où? Dans 6 mois, c'est les municipales. Et La République En Marche, parce que c'est une tête politique, il est devenu extrêmement politique, d'ailleurs.
Donc ça veut dire
Ça veut dire que comme il souffre, si vous voulez, d'un défaut, mais d'une faiblesse, c'est le maillage territorial électoral où ils sont quasiment absents, La République En Marche. Et comme dans la foulée de ces municipales va se produire, si vous voulez, une cascade d'élections jusqu'aux élections présidentielles, c'est en fonction de ça qu'il est en train, si vous voulez, non pas de reculer, mais de changer de pied, de changer de stratégie, y compris dans sa communication.
C'est ça. Donc il y a eu le mea culpa sur le manque d'humilité après la crise des Gilets jaunes. Maintenant, il faut faire entrer les Français dans la cuisine. Il faut discuter avec eux. Il faut être dans la co-écoute et il faut y aller piano, piano. On se retrouve dans un petit instant avec d'autres auditeurs qui nous appellent au 3921.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1 jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir, la suite sur Europe 1, avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous. Nathalie Lévy ce soir, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1. Et toutes vos questions en direct, 3921.
On revient sur le mouvement de grève dans les services d'urgence. Vous êtes nombreux à nous contacter au 3921. On l'a dit, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a dévoilé aujourd'hui, elle était à Poitiers, au CHU précisément, ses premières mesures pour désamorcer ce mouvement qui dure depuis maintenant 6 mois. Et de toute évidence, les réactions sont plutôt timorées. C'est jugé insuffisant, Mickaël Darmon.
Oui.
La ministre, elle est dans son élément pourtant.
Oui, mais c'est vrai que c'est une fois de plus la problématique d'être du métier, comme on dit. Lorsqu'on met un ministre, mais médecin à la santé ou un agriculteur à l'agriculture, eh bien, c'est souvent bien compliqué parce qu'on a ou une trop grande perception des sujets ou une trop difficulté proximité. À pouvoir s'affronter et à pouvoir donc vraiment réformer. Ce qui me frappe dans cette manière de donner des mesures et de tenter de juguler d'éteindre l'incendie, c'est la deuxième fois qu'il y a des volets de mesures. Il y avait une somme d'argent, 70 millions, qui avait été débloquée en urgence. Et là, des mesures qui, effectivement, s'apparentent à des mesurettes. Au début du mandat, à chaque fois que le gouvernement présentait une réforme, il disait « c'est systémique, il faut faire des réponses qui répondent à l'ensemble des problématiques du système ». Or là, on voit bien qu'on répond à un incendie qu'il faut circonscrire. Or, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement être capable de pouvoir élargir des actes aux infirmières, susciter des vocations en payant mieux les personnels hospitaliers, augmenter le numerus clausus, mais ça prend 10 ans. Donc on voit bien que ce n'est pas demain qu'on aura la solution. Il faut que l'implantation des médecins en déserts ruraux puisse être également encouragée. Et tout cela, on ne le voit pas. Donc on comprend bien que c'est encore un incendie qu'on va éteindre, mais pas forcément le circonscrire.
Oui, voilà. Non, mais il faut de toute façon commencer par l'éteindre.
Oui, alors
déjà,
comment on fait
avant toute chose.
Mais on voit bien que ça passe de je livre simplement...
Elle-même dit d'ailleurs, Agnès Buzyn, on n'est pas là simplement pour soigner le symptôme. Elle a parfaitement raison. Elle a quand même une urgence, c'est de réduire au maximum les passages des personnes âgées, notamment aux urgences. Elle a raison.
Généraliser l'admission directe.
Qui est allé d'entre nous aux urgences, 2 fois de suite par exemple, ou 3 fois? Qui a vu un peu l'engorgement? Comment ça se passe? Qui a pu observer pendant des heures couchés sur leur brancard?
Dans les couloirs.
Notamment dans les couloirs, etc.
Et les courants d'air.
Avec un personnel pourtant consciencieux, professionnel, mais totalement débordé, totalement débordé. Qui a observé ça comprend parfaitement, si vous voulez, l'exaspération, justement, non seulement des médecins eux-mêmes, mais des infirmiers.
Alors justement,
et des infirmières.
On a une infirmière, elle s'appelle Clémence, elle nous appelle de Saint-Malo. Bonsoir Clémence.
Bonsoir.
Merci de nous avoir joints sur le 3921. Vous-même, vous êtes infirmière. Vous avez entendu, oui. Gérard Carrérou et Charles Villeneuve nous rappelé réduire au maximum le passage des personnes âgées aux urgences, généraliser l'admission directe, étendre la vidéo-assistance entre les EHPAD et les SAMU. Gérard Carrérou était dubitatif. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ces mesures aujourd'hui?
Moi, je dis déjà que Agnès Buzyn aurait dû se rendre dans un CH ou un CHU qui était en grève et non pas à Poitiers, qui fait partie des hôpitaux qui ne sont pas en grève. Ouais. Pour commencer, il y en a plus de 200 qui sont en grève, donc je pense qu'elle avait un large choix.
Évidemment.
Et on reste dans un métier humain, donc déjà la téléassistance. Je suis un peu dubitative aussi. Il n'y a pas que des personnes âgées aux urgences. Moi, je suis dans un service de soins palliatifs tout l'été. Les urgences nous ont appelés tellement ils étaient débordés et même avec des patients, des jeunes patients qui voulaient nous envoyer, qui restent 7 heures, 8 heures, 10 heures sur des brancards. Ils sont exténués. Il y a des démissions de médecins qui n'en peuvent plus. Là, on ne fait rien pour garder son personnel dans le service des urgences et dans les autres services. Les moyens ne sont plus bons, que ce soit les moyens techniques, les moyens matériels. Les hôpitaux sont trop vieux. Enfin, il y a trop de choses. Là, pour moi, il y a rien. C'est
vous,
c'est mis sur la table.
Vous, quand vous faites une journée de travail, c'est une journée de combien d'heures en moyenne?
Alors, nous, on a différents horaires. On a des journées de 10 heures ou de 8 heures, que ce soit de jour ou de nuit, ça dépend.
Et avec combien de patients vous avez...
Sur un service de soins palliatifs, on est à 13 patients, mais aujourd'hui, on en est quand même rendu à se dire, parce qu'on a beaucoup de passages de gens qui font des entrées-sorties, qui décèdent très rapidement, qui nous sont envoyés des urgences parce que justement, ils ne veulent pas qu'ils décèdent aux urgences sur un brancard. Et aujourd'hui, on en est quand même rendu à se dire, mais que ce soit aux soins palliatifs ou ailleurs, aujourd'hui, j'ai pris un peu plus de temps avec cette personne-là. Oui. Demain, je devrais en prendre un peu moins parce que j'ai trop de travail. Il faut quand même que je puisse m'occuper de tous mes patients. Oui. Et ce n'est pas normal. On devrait pouvoir se dire, aujourd'hui, j'ai le temps pour vous, mais j'aurai aussi le temps demain.
Madame, est-ce que je peux vous poser une question?
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité ouverte aujourd'hui par la ministre d'une nouvelle catégorie, disons, qui existe déjà dans un certain nombre de pays européens ou aux États-Unis, entre les infirmières et les médecins, une catégorie de, disons, pas de super infirmières, mais d'infirmières ayant la possibilité de faire un certain nombre d'actes auxquels elle n'a pas le droit de faire actuellement.
Avec des formations.
Avec une formation, un diplôme et éventuellement, bien sûr, un meilleur salaire. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une piste intéressante à ouvrir?
Alors, ça pourrait être faisable, mais pour ça, il faudrait déjà aussi qu'on ait aussi bien infirmier que médecin, moins d'administratif. Parce que ça nous prend énormément de temps. Et du coup, déjà, rien que sur les soins techniques sur lesquels on est habilité, il y a des fois, on n'a pas le temps de le faire, quoi. Et c'est ça qui est problématique aussi, c'est que l'administratif nous demande énormément de temps. Et c'est, en soi, c'est pas une bêtise, puisqu'il y a bien qui sont les infirmiers anesthésistes, les infirmières puéricultrices. Enfin, voilà, je pense qu'il peut y avoir des solutions là-dessus. Mais ça fait 25 ans que ça n'a pas été revu, tout ça. Et je pense qu'il y a un gros dossier qui, effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne peut pas se résoudre d'un coup de baguette magique parce que, voilà, c'est trop compliqué. Mais je pense qu'il y a des choses à faire.
Merci beaucoup, Clémence. En tout cas, merci. Vous nous appeliez depuis Saint-Malo. Des gouvernements qui demandent toujours de faire plus avec moins. Finalement, c'est ce qu'on entend dans la bouche de Clémence.
Oui, ce qui est frappant en entendant tous ces témoignages, en comprenant chaque jour l'urgence, je dirais, de ce dossier, c'est que s'il y a un foyer possible pour relancer la colère, éventuellement une crise sociale nouvelle, c'est bien ce dossier des urgences, parce que c'est là où le rapport à l'égalité entre tous les Français d'accès aux soins se matérialise et est de plus en plus justement criant.
Charles, mais c'est sur ce point que le Premier ministre a fait une erreur dans l'histoire des femmes aujourd'hui. Il a annoncé un certain nombre de mesures intéressantes, mais il a dit à un moment donné, ça c'est une grosse erreur, il a dit mais l'argent c'est pas l'essentiel. Alors évidemment,
que là les moyens sont évidemment...
Évidemment, on sait que les moyens, mais c'est vrai aussi pour les infirmières et les médecins.
Mais elle a fait une remarque très importante pour
le
ceux qui
fin.
Sont habitués ou qui ont fait quelques séjours dans les hôpitaux, c'est les actes administratifs. Ça submerge tout le personnel.
Merci à tous les trois. Lundi, elle recevra tous les acteurs du secteur et elle a promis d'autres annonces la semaine prochaine, Agnès Buzyn. Merci beaucoup à tous les trois.